des femmes,
des hommes,
des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Amis auditeurs, bonjour, Jean-Jacques Chavannes avec vous pour cette nouvelle chronique de la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, on va parler des GAFAM et à travers les GAFAM de liberté et d'informatique. Pour en parler avec moi, Pascal Verdiel. Est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Oh oui, je suis Pascal Verdiel, je suis informaticien, j'ai une petite société sur Bourg-en-Bresse et je suis surtout investi dans le monde du libre, de l'open source informatique et donc aussi assez anti-GAFAM.
D'abord, avant de dire si on est anti ou pro-GAFAM, qu'est-ce qu'un GAFAM exactement ?
Alors, GAFAM, c'est simple, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ça fait donc GAFAM, qui sont ces cinq grandes sociétés qui ont été les plus belles capitalisations boursières de ces dernières années, quasiment sans rien vous vendre. Et donc, ça vous fait l'acronyme GAFAM.
Quasiment sans rien nous vendre, c'est-à-dire ?
Eh bien, quand vous regardez, par exemple, Facebook, on va prendre Facebook, qui est le cas le plus simple, parce que Amazon vend des produits aussi, mais Facebook, vous n'avez jamais rien acheté sur Facebook, et pourtant, c'est une des plus belles fortunes mondiales. Donc, c'est bien que le business se fait ailleurs.
Oui, le business se fait ailleurs, c'est-à-dire que pour le consommateur, tout est gratuit.
Oui, pour le consommateur, tout est gratuit. Alors, je vais commencer par reprendre une petite phrase qu'on dit souvent dans l'informatique, c'est en parlant d'Internet, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc en effet, chez Facebook, tout est gratuit, mais comme Facebook passe son temps à revendre vos données, vos habitudes d'être, vos habitudes de consommation, vos pensées à des entreprises, l'argent se fait là. Et en fait, ce n'est pas gratuit. En fait, vous donnez votre humanité à Facebook.
C'est-à-dire, vous voulez dire que la gratuité s'échange contre la liberté ?
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, ces GAFAM travaillent sur des algorithmes. Un algorithme, c'est une sorte de logiciel intelligent. Par exemple, Facebook, ils sont arrivés à un moment, ça a fait un petit scandale sur Internet, ils avaient un algorithme qui était capable de détecter le côté dépressif chez un adolescent pour arriver au moment où il était dépressif, à lui vendre certaines choses, faire passer certains produits, certaines pubs, pour qu'il accroche à ce moment-là. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir, et ils sont tous comme ça, hein, Google a absolument les mêmes approches, ils travaillent tous sur des algorithmes très très sophistiqués, de manière à anticiper vos désirs. Donc quand vous dites anticiper vos désirs, petit à petit, on va vers une perte totale du libre arbitre humain, puisqu'on veut cibler vos publicités, on veut cibler vos envies, on veut cibler tout en connaissant vos habitudes au quotidien. Donc vous perdez votre libre arbitre parce que vous n'aurez que les publicités qui correspondent à votre classe sociale, à vos désirs, à vos envies, et donc vous perdez votre humanité.
Donc vous voulez dire que les GAFAM pénètrent la conscience des individus ?
Ah bien sûr. Bien sûr, vous prenez une chose comme Google, qui était le premier grand, voire très grand moteur de recherche. Google connaît mieux votre vie que vous-même. Puis imaginez que Google, lui, il stocke sur des serveurs vos requêtes ou vos demandes. Vous en faites aller une cinquantaine par semaine si vous êtes un utilisateur moyen d'Internet. Si ça fait 15 ans que vous avez travaillé sur l'informatique, ça fait 15 ans que vous faites une cinquantaine de recherches par semaine, imaginez le type de réponse. Et par vos requêtes, il sait l'âge que vous avez, si vous êtes un homme ou une femme, vos désirs, vos goûts. C'est le premier à savoir si votre femme a un cancer ou pas, parce qu'évidemment, la recherche se fera sur cancer du sein, donc cancer du sein veut dire femme, etc. etc., etc. La première personne, ça c'est ce qu'on dit généralement, qui est au courant quand une femme est enceinte, c'est Google, parce qu'elle fait des la femme fait des premières recherches sur Google avant éventuellement même de l'annoncer à la famille. Donc la puissance des données Google est effarante.
Et comment vous expliquez le consentement des individus par rapport à ce phénomène d'emprise ?
Alors je pense que le consentement vient de la facilité, hein, c'est-à-dire que vous faites une requête, vous avez la réponse. mais je pense aussi que le consentement pose un autre problème, c'est que les gens n'ont pas l'éducation. C'est-à-dire que personne, toujours par ce phénomène de facilité, s'est posé la question en disant « Tout ce que je donne, où est-ce que ça va ?» On ferme les yeux là-dessus. Donc aujourd'hui, le grand travail, si on veut arriver à lutter pour et à monter une société moins concentrée et moins liberticide, il faut éduquer les gens, leur apprendre ce que font les GAFAM, et leur dire « Attention, hein, ça part pas pour rien, ce qui arrive, c'est grave, le modèle de société vers lequel on va, le voilà, est-ce que c'est ça que vous voulez ?» En prenant une adresse Gmail de manière gratuite et rapide, en faisant des recherches sur Google, etc., etc., en utilisant Facebook comme réseau social, faut voir ce que ça entraîne comme conséquence sur un modèle de société. Une fois qu'on a communiqué ça aux gens, ils gardent leur possibilité de dire « moi, c'est ce que je veux, moi, c'est pas ce que je veux », mais aujourd'hui, les gens n'ont pas cette conscience-là du danger. Ils voient la puissance financière des GAFAM, mais ils n'en voient pas du tout le danger sur nos libertés au quotidien, et ce danger est énorme, énorme.
Est-ce qu'il n'y a pas une question de lutter contre soi-même, puisque donc les choses arrivent avec facilité, pénètrent donc les cerveaux? Est-ce qu'il n'y a pas un effort demandé donc aux consommateurs?
Ah oui, 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 parce que lutter contre soi-même, c'est ce fameux monde de la facilité du clic. Aujourd'hui, on est dans le monde du clic. Tout va très vite, on ne reste pas concentré plus d'une demi-heure. Hein. Clac, 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 on a des notifications de partout. Tout se fait facilement. On vous prévient 50 fois quand vous êtes livré chez vous par un transporteur, où il en est, à quelle heure il arrive, etc., etc. Donc c'est vrai que si on veut reprendre notre vie numérique en main, ça demande un petit peu d'effort. L'autonomie numérique va demander de l'effort. Mais qui dit effort, on y trouve un grand plaisir après, parce qu'on a une sorte de liberté et une conscience plus large de ce qui peut se passer, de ce qu'on peut nous proposer, par rapport à aujourd'hui où les gens ne se rendent pas du tout compte d'où on va avec les GAFAM. Hein.
Mais est-ce que cette toile d'araignée donc, qui s'est tissée autour des individus, elle n'est pas difficile à enlever, parce que ne s'est-elle pas tissée aussi au-dessus des États par ces immenses puissances financières que sont les GAFAM ?
Ah bah, elle n'est pas facile, elle n'est pas facile à enlever, c'est sûr. Mais si on arrive à faire prendre conscience aux gens et à changer leurs habitudes, je pense que le combat il se mène à deux niveaux. Le combat qu'on peut mener tout un chacun là, en expliquant aux gens qu'il y a d'autres solutions, d'autres manières de penser, d'autres approches, qui est un monde qui est anti-GAFAM. Il y a des associations qui ont beaucoup travaillé sur l'anti-GAFAM. Et ça peut se répandre. Après, il faut qu'il y ait des combats qui soient plus généraux, plus politiques, pour interdire une puissance financière qui dépasse une certaine taille. Parce qu'on ne peut pas concevoir, mais là, l'approche, elle est plus informatique, elle est sociétale, une entreprise qui a un chiffre d'affaires supérieur au PIB de plusieurs pays. C'est pas possible. Les gens se prennent pour Dieu après. Quand vous voyez que Facebook, vous avez 2 milliards de personnes connectées en permanence, imaginez la puissance de feu du patron. Hein, quoi. Il est là, il dit « Je suis Dieu ». Parce que je balance une fake news, je balance une nouvelle, vous avez 2 milliards de personnes qui réagissent dans l'instantané. Et personne n'a ce pouvoir-là. Quel que soit le président de la République, quel que soit l'empereur, n'importe quel pays, il ne peut pas faire bouger 2 milliards de personnes. Mais vous avez Facebook qui est capable de le faire.
Et donc, est-ce que vous pensez que cette puissance peut être contrecarrée à terme, malgré les gigantesques pouvoirs qui ont été conférés donc, à ces GAFAM? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une réversibilité?
Oui, moi j'y crois. Par l'éducation, en montrant vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, en montrant vraiment que les enjeux sont importants et fondamentaux pour les générations qui arrivent, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et avec une approche politique aussi. Ça peut, moi j'y crois.
Est-ce qu'il y a, donc c'est vrai qu'au départ, donc Internet c'était un monde libre, ouvert, décentralisé, et on est arrivé à un monde qui est fermé, qui est non libre. Comment en est-on arrivé là justement?
Alors, on y est arrivé, j'allais dire grâce et à cause de cette espèce de capitalisation boursière énorme qu'ont fait les GAFAM, quoi. Donc, par exemple, vous regardez quelqu'un comme Google. Google était le moteur de recherche à la base. Et tout le monde passait ses requêtes par Google. Maintenant, vous avez des choix. Hein. Vous avez Quant, vous avez Ecosia, vous avez toute une série de moteurs de recherche possibles. Mais Google a pris sa puissance comme ça. C'était aujourd'hui, tout le monde vous parle de Google, Google, Google. Tout le monde veut faire ses recherches sur Google. Évidemment, ça aide à devenir archi-puissant. Donc, ça s'est fait comme ça. Et le réseau social, ça a été la même chose. Ça a été une sorte de... C'est parti à l'université, hein. On avait un peu des infos sur qui faisait quoi, et maintenant c'est devenu une addiction. Hein. Alors après, il y en a qui comprennent ce genre d'addiction, il y en a qui comprennent un peu moins, et cette addiction, elle a été planétaire. Donc c'était sur le même logiciel, et tout le monde s'est retrouvé à montrer ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, etc., etc. Alors après, on aime, on n'aime pas, on est pour, on est contre. Ça a d'énormes dangers, on voit chez les jeunes, ça a d'énormes dangers. Après, heureusement, il y a toute une série de gens qui luttent contre tout ça. Quoi.
C'est-à-dire qu'il y a un choix où on rentre dans une sorte d'individualisme forcené, avec une addiction aux GAFAM, où on est dans sa bulle, ou alors on va vers quelque chose de collectif. C'est l'enjeu.
Oui, l'enjeu, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va à quelque chose de plus collectif, on retrouve une humanité, parce que l'humanité, elle est en collectivité. Hein. Si on regarde toute l'histoire de l'humanité, quelque part, il y a un collectif qui est fort. Et vous avez, alors je ne sais pas si vous voulez que je cite certaines associations qui travaillent là-dessus actuellement, mais vous avez une association que je tiens à citer parce qu'elle est à la base de la lutte contre Google, c'est Framasoft, qui est une association lyonnaise qui n'est pas énorme, et qui a lancé une campagne qui s'appelait « Dégooglisons Internet ». Donc chaque fois que Google avait un outil, ils ont développé, avec une communauté et avec leurs développeurs, ils ont développé l'outil qui va en face, qui est libre, éthique et décentralisé. Donc là, on pourra vous donner des exemples et éventuellement mettre des liens ou des choses comme ça, parce qu'il y aurait quoi en parler pendant des heures. Mais leur campagne Dégoulisement Internet est une campagne que moi j'ai trouvée extraordinaire et que énormément de gens ont suivi sur le plan national, parce que c'était vraiment magique. Beaucoup de gens ont contribué, donc ça a été vraiment un effort collectif. Et ils en sont même arrivés maintenant, ils ont attaqué il y a un an pour dire on ne veut pas devenir Google, bon il y a de la marge, hein, mais on ne veut pas devenir le nœud qui héberge toutes ces solutions anti-Google, on va vous apprendre. Donc ils ont monté tout un wiki et des tutoriels pour qu'on puisse, nous, chacun chez nous, monter un serveur. Donc moi, par exemple, je pourrais monter un serveur avec des chaînes vidéo qui est Pertube, qui remplace YouTube, pour héberger vos vidéos à vous, les vidéos de mes amis, etc. Et ouvrir ça au public. Et si tout le monde fait un peu ça, on reviendra dans ce qu'était le web dans son origine, un web décentralisé et qui partage. Les gens viennent partager sur le serveur, je leur donne des accès, ils font ce qu'ils veulent, ils vont partir le lendemain aller sur une autre instance, ils vont sur une autre instance. Il y a toute une série de réseaux sociaux, par exemple comme Mastodon, choses comme ça, qui sont créés, qui sont des réseaux avec des instances décentralisées. Donc on revient à ce qu'était l'éthique du web à son démarrage.
Donc un autre monde est possible, Pascal Verdier.
Ah, un autre monde est complètement possible, oui, j'y crois, mais...
Je vous remercie.
Merci.